L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radio La.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio La, la web radio de proximité du pays de Diolfi, Bordeaux, Drôme, Monde. Vous nous écoutez sur les ondes numériques, sur l'appli Radio La et aussi en podcast sur Radio La Média. C'est Vincent au micro. Pour ma toute première émission de radio, j'ai décidé de vous parler d'un sujet au nom un peu compliqué à prononcer pour ceux qui, comme moi, en sont porteurs, la dyslexie. Dyslexique et alors, c'est le titre de cette entrevue qui, j'espère, permettra de mieux comprendre comment on vit avec une dyslexie et d'apporter quelques éclairages aux enfants dyslexiques et à leurs parents, souvent désemparés. Comme tous les dyslexiques, j'ai choisi d'en parler sous un angle différent, qui n'est pas celui de faire parler des spécialistes, mais de donner la parole à ceux qui la vivent au quotidien, des dyslexiques et des parents d'enfants dyslexiques. Nous consacrons deux émissions à l'entrevue, à la dyslexie. Cette semaine, nous recevrons Rabia Bellocine et Bertrand Boulanger, deux Pontois ayant une dyslexie. Du haut de leur cinquantaine, ils vont nous raconter comment on vit avec eux et comment on s'en affranchit. Et la semaine prochaine, nous accueillerons Agatha Martineau, institutrice et dyslexique, oui, c'est pas commun, ainsi que Sophie Mottez, maman de trois enfants dyslexiques. Tous les deux nous expliqueront comment elles se sont adaptées pour accompagner les dys et de quels outils on dispose aujourd'hui. Bonjour Rabia Bellocine.
Bonjour.
Bonjour Bertrand Boulanger.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que chacun à votre tour, vous pourriez reprendre le titre de cette entrevue, dyslexique et alors, avec le ton que vous voulez et en ajoutant un mot qui définirait votre manière de vivre votre dyslexie. Qui commence ?
Rabia, c'est toi qui as été nommé en premier.
Dyslexie et alors, merci les outils.
Bertrand ?
Oui, j'ai envie de dire conjugaison.
On sent déjà la personne qui aime manier les mots. Rabia, tu es pontoise, animatrice à la communauté de communes, assistante maraîchère, énergique et organisée. Je connais Rabia, quand elle prend les choses en main, ça dépote et c'est très organisé. Et pourtant, tu es dyslexique.
Oui.
Pour commencer, quel élève étais-tu en primaire lorsqu'on apprend à lire, à écrire
Bon, en fait, j'étais une très bonne élève, gentille. Puis nous, à notre époque, il fallait être sage. Donc on était très, très sages, de très bons élèves. Mais j'avais toujours quand même, en français, que des zéros. Mais ça ne m'a pas empêché de passer du CP au CE1, au CE2, au CM1. Et c'est quand je suis arrivée en CM1 que mon maître a dit que j'avais quand même sûrement un petit problème et qu'il fallait que j'aille voir une orthophoniste, que je devais sûrement avoir un 10.
Et tu es allée voir cette orthophoniste.
Oui, ouais. Ben voilà, on a fait un bilan et effectivement, elle avait le retour était vraiment que j'étais dyslexique, mais bien bien. Et puis en fait, elle m'a juste appris, elle m'a donné déjà des outils pour m'en sortir et puis elle m'a appris aussi à... Enfin moi, ma difficulté, c'est distinguer les sons de certaines lettres, en fait. Et elle m'a... comme le P, le D, le T, le D, le P, le B, tous les S, tous les sons S, avec un S ou pas de... Un S, deux S. Le G, le J, le V, le F. Elle m'a appris à les prononcer à chaque fois que je devais écrire un mot. Un exemple pour écrire voiture, pour ne plus avoir zéro en dictée, et ben, je prononçais F ou V et je savais que c'était voiture. Et là, j'écrivais avec le V. Donc, j'avais juste.
Avant de mettre le mot dyslexie là-dessus, comment tu vivais ces difficultés ? Tu avais juste l'impression d'être nul ?
Oh non, je ne me trouvais pas nulle, c'est que je ne faisais pas attention parce que j'avais tellement l'habitude d'avoir zéro qu'après, du coup, moi, ça me passait au-dessus. Je savais qu'on avait dicté, donc dès que c'était dicté, c'était zéro, d'office. En fait, tu fais avec, quoi. ça ne te choque pas, quoi.
Bertrand, toi, ton primaire, à quel moment tu sentis des difficultés liées à la dyslexie ?
Dès le début, au contraire, par rapport à Rabia, c'était une catastrophe, l'école. C'était nul en tout. Et puis j'avais honte de tout, j'avais honte de moi. Donc, et justement, quand j'entends le mot élève, j'entends le fait d'élever. Et moi, je me sentais écrabouillé. Et je m'auto-écrabouillais. Donc, c'était vraiment pas terrible.
Et tu comprenais, tu sentais que tu avais une difficulté ou tu avais vraiment l'impression d'être nul?
Oui, oui, j'avais franchement l'impression d'être nul et on me le faisait sentir, quoi. Et donc il n'y avait pas le verdict. Moi, j'ai pas eu. C'est par le biais de ma fille, quand elle a été reconnue, donc quand elle avait 8-9 ans, je crois, aux Amanins, que j'ai vu qu'elle lisait comme moi, prendre des petits mots pour s'épargner à avoir lire le texte en entier. Et de faire le grand raccourci pour donner un sens, parce que j'avais l'impression qu'elle comprenait le sens, et je me suis dit, tiens, elle lit comme moi. Et c'est comme ça que j'ai appris, j'avais entendu parler de la dyslexie, mais longtemps après, j'ai jamais été voir une ortho, rien du tout.
Et comment s'est passé justement la suite de ta scolarité? Ça t'a coincé énormément, ou t'as réussi à faire des études? Comment...
Non, j'ai pas eu le bac, et ça m'a coincé, parce que je crois que c'est aussi ça, j'avais pas confiance dans la possibilité. On m'a tout le temps dit que je ne ferais rien de ma vie. Donc ça n'aide pas. Et après, j'ai compris que peut-être ça serait par les images. Et là, après, j'ai voulu rentrer aux Beaux-Arts. Et là, ça s'est décoincé un peu, parce que j'étais plus obligé d'avoir à écrire correctement. Et après, pendant tout ce chemin-là, j'aime les aventures à lire. Donc je me suis quand même accroché, c'est ce que je racontais dans la voiture. J'ai essayé de prendre en photo des mots pour avoir accès à des histoires. Même si après j'inventais les trois quarts de l'histoire, mais au moins j'avais appui sur des petites choses qui étaient Jules Verne, j'en ai lu. J'en ai réinventé un peu des bouts, mais je me suis retrouvé sur la Lune et tout ça. Et parce que j'avais envie de partir ailleurs que sur la Terre. C'est pour ça que j'aime bien m'appeler Terrien Vague, c'est pas pour rien, quoi.
Oui, d'ailleurs, Bertrand, j'avais oublié de te présenter. Tu es pontois, pas sur la journée au quai où tu es. Comme tu le dis, Terrien Vague, constructeur, vertigagitateur, galactique de proximité. C'est pas évident pour inventer ces mots pour un dyslexique. Vous aurez compris, Bertrand est un artiste, poète, auteur, sculpteur, décorateur, musicien, ce qui est compatible finalement avec la dyslexie.
Décorateur.
Décorateur.
Décorateur, c'est redécorer le dico.
Le dico.
Bah, réinventer des mots, quoi.
Réinventer des mots. On viendra justement après sur le Scrabble que tu as inventé à ta sauce, qui est du Scrapos, c'est ça. On en parlera un petit peu plus tard. Je voulais continuer sur les études. Je reviens à Rabia. Toi, ça t'a porté défaut. Comment t'as
fait
des études ?
J'ai pas fait d'études. Moi, on m'a toujours dit, arrivé au collège, au primaire, c'était super bienveillant, mais arrivé au collège, j'ai eu droit, tu seras jamais quoi faire de... Tu feras rien de ta vie, tu feras rien de tes 10 doigts, tu comprends rien du tout. Non, mais c'est pourtant très simple ce qu'on explique. Enfin, voilà, ça a été la déchéance. Là, le collège, ça a été des années, mais horribles. Et du coup, j'ai lâché l'école, en fait, je ne voulais plus y aller. C'était pas possible, c'était pas vivable. Et puis, on te dit ça devant les autres en classe, quoi. Ça, c'est encore pas cool. On ne te prend pas à part pour te dire que ça ne va pas. On te le dit de vive voix devant toute la classe.
Et justement, tu as été orientée après, tu as fait un
BE. Ils ont dit que moi, j'étais bonne que pour aller en CAP. Donc du coup, je suis allée en CAP, ça ne me plaisait pas du tout, hein, bien sûr. Et puis, à contrario, quand je suis arrivée au CAP, les profs que j'avais au CAP m'ont dit « Mais t'as rien à faire ici, t'as un niveau largement supérieur qu'un CAP, qu'un BEP, on comprend pas pourquoi t'es là. » En fait, j'avais pas de place. Et c'est là que je me suis dit « En fait, on n'a pas de place, en fait. Dans le cursus normal, on n'a pas de place. Dans le cursus futur, dans le cursus professionnel, on n'a pas de place non plus, en fait. On ne sait pas où aller. » Donc, j'ai vraiment tout abandonné et je suis allée travailler. C'était vachement plus simple.
Tu as fait aussi à un moment des études d'ébéniste, hein, il me semble.
Ah oui.
Ouais. Tu as commencé par quoi comme formation, justement, que tu as peut-être abandonné?
C'est un CAP. J'avais fait CAP, c'était que des CAP dans le centre de formation où j'étais. C'était le CAP menuisier et CAP ébénisterie, les deux. Parce que ça me plaît bien. Tout le repère dans l'espace et tout, moi je m'y retrouve. Les plans, lire les plans. En fait, contrairement à Bertrand, moi, je suis vachement plus terre à terre. Il faut que tout soit carré. Il faut rien ne dépasse. Et c'est ce qui me sauve pour m'en sortir, en fait. Je suis vraiment à l'opposé de Bertrand.
Et justement, après, tu n'es pas resté ébéniste. Pourquoi?
Parce que à l'époque, ça, c'est encore un autre sujet. En tant que femme, c'est difficile. Maintenant non, mais moi à mon époque c'était très difficile, prendre une femme en tant que menuisière ou ébéniste, non, c'est pas possible, donc jamais trouvé.
Et pourtant ta dyslexie, elle t'apportait quelque chose supplémentaire, tu as l'air de dire.
Ben, ça m'a permis déjà moi de me découvrir et de voir ce que j'étais, donc ce que j'étais, je savais très bien déjà un petit peu quoi. Qu'il fallait que tout soit un peu carré et que je vois les choses en 3D pour arriver à comprendre sur une feuille ou sur du plat. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais...
Tout à fait.
Ce qui est écrit, je me l'imagine en 3D et je comprends.
Donc ça, c'est une compétence qu'on retrouve souvent chez les dyslexiques. Bertrand, toi, ton parcours, justement, tu disais... Tu as fait les Beaux-Arts. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'intéressait sur les Beaux-Arts ? Et comment tu es rentré ? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas besoin du bac.
Si, justement, c'était la première année où il fallait le bac. Alors, ça a été problème. Donc, j'ai dû faire une performance pour montrer que j'avais vraiment envie, besoin de faire ça. Et ça a marché ouf. Et j'étais content. Donc, je repensais à là, pendant que Rabia parlait, je repensais aussi au mot insolitude. C'est que moi, je me sentais vraiment seul dans ce cas-là. Enfin, c'est pas le fait d'être cancre, mais comme j'avais pas de diagnostic sur la dyslexie, il y avait personne qui était venu me dire quoi que ce soit. Donc, juste avoir l'impression d'être cancre. Alors, d'un côté, il y avait de l'humour, parce qu'avec mon grand-père, on rigolait bien. Et ça aussi, ça aide. De sortir de la syntaxe dramaticale. Je fais exprès de faire un D, là. Mais il y a ce rapport, c'est ça qui m'intéresse peut-être aussi avec cette émission, c'est de pouvoir donner l'impression que, voilà, maintenant, il y a des gens qui aident aussi, qui prennent en charge, qui disent pas, on est des crétins, ou on a un autre fonctionnement. Et c'est vrai que moi, je voyais tous les petits camarades qui allaient du point A au point B, fastoche, dans l'apprentissage de quelque chose. Et moi, j'avais l'impression que je me perdais dans la forêt, très loin, mais j'ai vu des paysages que les autres n'ont pas vus. Et maintenant, j'en fais profiter. Mais à l'époque, c'était compliqué, j'étais toujours en retard, quoi.
Tu en fais en profiter comment, justement ?
Ah bah, par le biais, justement, avec les jeux de mots, parce que moi, j'ai tout le temps... Par exemple, le mot cerveau, dans mon... Comment dire ? Peut-être la plus belle image que je puisse trouver, c'est quand j'ai été la première fois dans un aéroport... J'ai vu toutes les destinations qui se positionnaient comme ça, et avec les changements de lettres, bah dans ma tête, ça fait un peu ça. C'est-à-dire, quand je vois cerveau, je vois le mot évacué. Il y a les mêmes lettres. Donc c'est des anagrammes qui sont tout le temps là. Donc moi, quand des mots, c'était une façon aussi de se poser, que les mots se posent. Comme je te disais tout à l'heure, c'est les photographier pour aussi pouvoir les écrire correctement, pour pouvoir être lu sans qu'on me dise « t'as fait une faute ». Pour pouvoir écrire une lettre et me dire « je comprends ce que tu veux dire ». Je vois ce que tu veux dire. Et pas être repris tout le temps sur l'orthographe. C'est pénible. On n'a plus envie d'écrire, quoi.
Justement, tu as arrivé, puisque tu es auteur, et puis oui. Tu as créé aussi un jeu, je ne sais pas si on appelle ça des performances, mais qui est un peu un jeu spectacle.
Oui, des ateliers ludiques d'écriture, ou d'imaginaire commun.
Ouais. C'est pas évident de oser être auteur quand on est dyslexique, puisque c'est là-dessus qu'on te ramène. Tu peux apporter un écrit... Et tout de suite, toi, tu as envie qu'on parle du fond de ce que oui. Tu racontes. Et on va dire, oh bah tiens, tu écris ça comme ça, toi, et on va aller sur le fond. Je ne sais pas si ça vous... Moi, ça m'arrive souvent, hein, oui. Donc c'est très difficile, donc on a confiance. Donc, aborder des métiers où on est auteur, où il y a l'écrit, où ça passe, souvent les travaux littéraires, etc., ouais. c'est pas évident. Donc, comment tu as surpassé ça et comment tu as arrivé à être auteur
Bon, alors en vrai, là sur les textes que j'écris, je me suis fait corriger par exemple par l'ancienne maîtresse de Pont-de-Barret, plus par d'autres amis. Il y a eu 3-4 correcteurs et correctrices. Je les remercie pour que ça passe, parce qu'on peut pas. Je pouvais pas, par respect, sinon on n'aurait pas été dans le sens des mots, quoi. Après, ouais, c'est tous les mots inventés, justement, et moi j'invite. Des gens à inventer des mots et à y trouver ce que j'appelle une intimologie. C'est un peu comme l'étymologie, donc c'est l'histoire du mot, mais qu'on invente. Parce que c'est ça, inventer un langage. Moi, c'est ça qui m'amuse aussi, c'est de lâcher ça. J'y vais en prison, à l'hôpital psychiatrique, un peu partout, à plein d'endroits où des gens n'ont pas confiance, et de leur dire, ben voilà, et si on s'amusait à inventer un langage et une civilisation qui va avec, c'est-à-dire du temps pour s'écouter, du temps pour voir qu'est-ce que veut dire ce mot, pourquoi il a cette connotation, parce que c'est le son des mots aussi. Bon.
Raga, tu voulais rajouter quelque chose, non ?
Non, moi, tu me fais ça, il me perd.
il te perd.
On en reparlera dans la voiture.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que toi, Rabia, dyslexique, ouais. Tu es une fan du Scrabble.
Ouais.
Ouais. Alors que, bon, oui. Personnellement, moi, étant dyslexique, j'évite les jeux où il y a de l'orthographe.
Qu'est-ce qui plaît là-dedans, alors ? Parce que c'est mon orthophoniste qui me faisait jouer au Scrabble, en fait. Elle me faisait... j'ai appris avec elle le Scrabble. Et c'est ce qui m'a permis, justement, d'améliorer l'orthographe.
D'accord.
Et ah oui, ça m'a fait vachement du bien, le Scrabble. Est-ce que tu écris sans faute, si possible ?
Le Scrapos, on a vitement parlé de le Scrapos. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un jeu que tu proposes ?
Oui, c'est un jeu sur une base d'un Scrabble géant. Donc on utilise 7 lettres comme au Scrabble, sauf que on invente des mots et on leur donne une définition. Donc et on peut jouer en équipe. Et donc l'idée aussi, c'est surtout de créer une ambiance détendue. Pour ça, je parle d'humour. C'est énorme l'humour, parce que on peut. Cette capacité à inventer, il faut être en confiance pour inventer, j'ai l'impression.
Et la confiance, elle est difficile à avoir justement quand on est dyslexique. Rabia.
Ah oui. Oui, quand même.
Ouais.
Enfin, je l'ai encore, cette pas confiance. Je l'ai encore, aujourd'hui.
Est-ce que tu as l'impression Et tu as l'impression de ne pas être légitime ? Comment ça se passe ?
Ben oui, oui, justement.
Alors,
en fait, c'est un éternel combat, en fait, tout le temps.
Justement, est-ce que vous, quand on vous a mis le mot dyslexique, vous savez ce que ça voulait dire ? Toi,
non.
Bertrand, tu l'as découvert plus tard, mais toi, que c'est la dyslexie pour toi ? C'est quoi ce...
C'est juste que dans le cerveau, il y a un truc qui dysfonctionne et qu'on ne fonctionne pas comme les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas comme les autres.
C'est-à-dire ?
On a peut-être... les autres vont développer des compétences qu'on n'a peut-être pas et eux ne vont peut-être pas développer les compétences que nous, on a développées finalement en parallèle pour pallier à notre 10.
Alors, on prépare.
Enfin, moi, je vis comme ça.
Tu vis comme ça.
Oui.
Alors, justement, par la confiance qu'on peut perdre en tant que dyslexique de pouvoir continuer à faire des études, et puis surtout à notre époque un peu plus, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, on en parlera dans l'émission prochaine avec Agatha et Sophie, qui ont des enfants un peu plus des générations d'après, et puis qui quelquefois suivent d'autres personnes. Mais justement, la confiance, elle est difficile, et de dire, est-ce que je peux être... faire tel métier ? Est-ce que je peux être auteur ? Est-ce que toi, t'aurais voulu faire un autre métier aussi ?
Non. Non, pas auteur. Non, moi, j'écris pas. C'est juste pas possible. Ça, là-dessus, je suis pas légitime du tout. Je ne sais pas faire.
D'accord.
Je ne sais pas écrire.
Donc, t'as évité les métiers où il faut écrire.
Oui, mais bon, après, j'ai choisi un autre où c'est quand même dans le social, où il faut écrire un peu. Et ce un peu, ça m'est très difficile, déjà.
On en reviendra à la fin de l'émission, là-dessus. En préparant cette émission, j'ai découvert un livre écrit par Guillemette Faure et Mick Canquet qui s'appelle « 10 et célèbre », dans lequel il parle des célébrités dyslexiques pour montrer qu'on peut être 10 et réussir, que la dyslexie est un handicap qui ne joue pas sur l'intelligence. Ça, c'est important de le savoir, parce que c'est pas pour ça. Et du coup, au contraire, on développe une autre sorte d'intelligence, car tous les dyslexiques ont en commun d'avoir développé des astuces pour contourner leurs difficultés. J'ai donc listé quelques célébrités 10 par domaine dans lequel leur métier, en indiquant les compétences qu'ils avaient développées. Vous écoutez bien et vous me direz les compétences qui vous correspondent, que vous pensez avoir développées. D'abord, on a les chercheurs, inventeurs. Le plus célèbre est Albert Einstein, je ne sais pas si je prononce bien, qui a eu une scolarité très difficile et a pu développer son génie qu'après, quand il était dans un domaine où il avait une liberté de création. D'ailleurs, il disait lui-même, je laisse Bertrand le citer puisqu'il me l'a dit.
L'imagination est plus importante que le savoir.
On a aussi Louis Pasteur, Léonard de Vinci qui était une imagination sans bornes et un véritable bourreau de travail. Donc, contrairement à ce qu'on peut dire d'un dyslexique qui n'est pas travailleur, qui est fainéant, alors qu'en fait, on est obligé de...
Travailler plus.
Pour y arriver.
Oui. C'est vrai, en plus.
Ouais. Donc, on avait aussi qui, lui, a cherché dans tous les domaines. Moi, je m'y retrouve un peu là-dessus, hein, que je trouve que c'est intéressant, de la peinture, la musique, le corps humain, puisqu'il a disséqué le corps humain, pour, voilà, donc la médecine, l'astronomie aussi, la mécanique, pour justement avancer. Frank Zapata, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui a inventé le skater volant, le personnage volant, dit que sa volonté et sa curiosité lui permettaient de réaliser ses rêves. Il démontait des jouets pour les comprendre et les remonter. Je crois que ça te parle un peu, Bertrand.
Oui, ça me parle, parce que justement, enfin, on en avait déjà parlé aussi dans la voiture, le fait de réparer, je me souviens que mon grand-père démontait des machines à coudre, et en fait, en faisant le lien, le fait de démonter un langage pour mieux le comprendre, c'était un peu ça, de passer par des voyelles et des consonnes, se faire consonner, moi j'appelle ça justement, j'avais l'impression de me faire consonner un lot de consonations, en tout cas c'était de comprendre des choses qui étaient complexes parce qu'elles étaient regroupées, et le fait de en voulant réparer, de démonter tout et de comprendre. Et puis, il y a des pièces qui, des fois, ne se retrouvent pas. Il faut réussir à être astucieux pour se dire, en fait, peut-être que je peux faire ça autrement. Et c'est en parlant avec toi que j'ai fait le lien entre une machine et une réparation et un langage. J'ai l'impression que c'est proche. Il y a des gens qui nous aident à... Il y a des dépanneurs et des dépanneuses de langage. Oui.
Justement, on se rapproche aussi dans le cinéma. On a des réalisateurs comme Tim Burton, Steven Spielberg, qui dit que lui, il met beaucoup de temps à lire un scénario, parce qu'il a besoin de le déchiffrer. Mais du coup, avec une lecture plus approfondie, c'est ce qui lui donne plus de sens. C'est-à-dire qu'il va chercher le sens à chaque mot pour comprendre. Et donc, du coup, il dit qu'il retient tout, et que c'est beaucoup plus approfondi. C'est ce qu'a fait un peu aussi... Il s'appelle Woody Goldberg, pour apprendre ses textes, où justement elle les répétait, elle les faisait entendre, etc. Et puis de comprendre un peu chaque mot. Il y a Tom Cruise aussi, qui est dyslexique, mais Orlando Bloom, je ne sais pas si vous connaissez ce comédien qui joue dans Pirates des Caraïbes, si je crois bien. Ce dernier, il a eu le déclic quand il y a un prof, il avait du mal, il voulait être comédien, et il avait du mal à apprendre ses mots. Et son prof de théâtre lui a dit, ce n'est pas les mots que tu dois apprendre par cœur, quoi, ces textes, ce n'est pas les mots, mais les sentiments, l'émotion. Donc on retrouve tout dans tout ça, qu'on doit l'adaptation par comprendre, en décortiquant, pour comprendre le sens de chaque mot, et pas un visuel, enchaîner les mots. Dans les sportifs, on a Lewis Hamilton, champion automobile. Il savait décrire précisément et visuellement comment se comportait sa voiture durant les courses. Et de reporter justement ses techniciens pour qu'ils ajustent, etc. Donc, ce qui a fait qu'il avait des voitures de compétition hyper adaptées. Et Mohamed Ali, qui est champion de boxe, comme vous le connaissez, je suppose, avait une capacité de laisser les indices visuels chez ses adversaires. Donc une perception d'observation énorme. Un mouvement de sourcil ou un déplacement d'épaule lui permettait d'anticiper des coups. Donc c'est vraiment encore un sens de l'observation très développé au niveau et qui se répartit aussi sur le niveau motricité. On parlera justement la prochaine fois de la motricité, le visuel et le sonore. Alors, tout ça, bien sûr, on dit c'est des gens créatifs, etc. Mais les entrepreneurs, puisque tout le monde rêve d'être... certains jeunes rêvent d'être Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson, et ils sont tous dyslexiques aussi. Et en fait, ce qui a fait leur qualité, c'est qu'en réunion, quand une problématique se posait, eux, ils voyaient sous un autre angle et trouvaient une solution en allant vers autre chose. Toujours, justement, la recherche. Si on ne prend pas la recherche, il y avait un chercheur qui disait justement la recherche, on est toujours sous le même angle. Si on ne prend pas autrement le problème, on n'avance pas. D'où l'efficacité justement de tout chercheur d'être dyslexique. Et dans les politiques, je vais finir les politiques et je reviendrai justement aussi sur les ingénieurs. En politique, il y a Winston Churchill, qui était quand même un grand orateur et stratège politique énorme. Erna Solberg, qui est une ancienne première ministre norvégienne, qui s'exprimait beaucoup pour questionner ses institutrices. Et elle n'écrivait pas ses discours parce qu'elle préférait les improviser. Donc elle a tout dans la tête. Et un jour qu'elle écrivait sur Facebook un discours, une remarque, elle s'est fait rabâcher par des gens, vous faites des fautes d'orthographe et tout. Et là, elle s'est dit, je vais défendre justement les enfants dyslexiques, les dyslexiques, en disant qu'on peut demander de l'aide. Et elle a poussé justement une campagne à aider pour se faire corriger. Quelles compétences vous semblez avoir développées quelque part pour justement passer outre vous deux ?
L'observation. C'est déjà pas mal.
C'est pas mal.
Tu disais aussi la logique par rapport au rangement de camions et tout ça.
Oui.
La
logique et puis tout ce qui est écrit, je synthétise beaucoup, énormément.
Bertrand,
c'était quoi la question? J'ai oublié.
Les compétences.
Tu
nous as dit un petit peu.
Oui, déjà. En répondant, oui.
Alors, vous savez que à la NASA, il y a 60%, je crois, d'ingénieurs, d'employés qui sont dyslexiques et c'est fait exprès. Vous savez pourquoi?
Oui.
Pourquoi?
Parce que justement, ils ont déjà ils voient en 3D. Ça aide. Et puis après, par rapport à ce que tu viens de dire, sur les chemins, leur cerveau peut envisager des chemins qui sont, vu qu'ils cherchent des choses qu'on ne sait pas. Donc c'est bien pour inventer des nouvelles façons de chercher que d'aller se perdre avec grâce vers l'inconnu.
Alors justement, aux États-Unis, sur un CV, on peut indiquer qu'on dit dyslexique et c'est justement positif parce que quand la NASA recrute, elle regarde, tiens, un dyslexique, ça m'intéresse parce que je sais qu'il va avoir telle compétence. Mmh. On est loin de ça en France. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez honte, que vous cachez dans votre milieu professionnel? Comment vous faites, vous contournez justement quand tu as des écrits rabia par rapport à comment tu fais?
J'en parle pas, il n'y a que mes proches qui savent que je suis dyslexique, j'en parle pas. Et je redouble d'efforts pour faire ce que j'ai à faire, surtout des fois quand il y a un écrit ou quoi. Mais sinon, non, j'en parle pas. Pas par honte, hein, mais j'en parle pas. Je vois pas ce que ça peut m'apporter de plus d'en parler, en fait. Moi, je le vis comme ça.
Je savais pas que tu l'étais, par exemple.
Voilà. Ouais. Par exemple. Ouais. J'en parle pas, moi. Je dis pas que je suis dyslexique.
Bon après, ça dépend du contexte quand je vais dans des... Parce que ça m'est arrivé d'aller dans des classes Ulysse. Justement, j'étais trop content d'avoir... Enfin, par rapport à tout ce que j'en ai bavé, je suis trop content maintenant qu'il puisse y avoir des jeunes. Parce que c'était ça aussi. Moi, quand j'étais jeune, je connaissais pas de 10 grands heureux. Je connaissais pas de 10, parce que je savais pas que j'étais 10. Mais enfin, bon, en tout cas, il y avait ce truc-là où je me disais, tiens, ça va être quoi mon avenir? Ça va être compliqué, quoi. Donc, il y avait les mains possibles, mais bon, je ne pouvais pas... Bref, là, je me dis... Des fois, il y a plein de fois où je vois qu'il y en a qui peuvent prendre appui sur mon bonheur, quoi. Ça peut rassurer. Et j'ai l'impression que je joue la personne que j'aurais aimé rencontrer à cet âge-là. Un peu. C'est rassurant, tout de même, de se dire, ah bah oui, on n'est pas... On peut s'en sortir bien, même sans forcément écrire, hein, mais juste de réussir à être bien. Plus on est nombreux et nombreuses, ça fait un... C'est rassurant, je crois.
Rassurant.
Ouais, rassurant.
On peut apprendre différemment. C'est ça qu'il faut expliquer. Moi, j'aime bien mon métier pour ça, l'animation. Oui. Pour apprendre aux enfants qu'on peut apprendre différemment.
Ouais.
Et pas forcément dans le cursus classique.
Ouais. Est-ce que tu penses que justement, en t'embauchant, s'ils savaient que tu étais dyslexique et que tu pouvais parler différemment aux enfants et justement les comprendre, c'est ce qu'on abordera justement la semaine prochaine avec Agatha, qui est instite et dyslexique, est-ce que tu crois que de marquer que tu es dyslexique, on serait en poste de dire, Rabia va être la personne idéale justement pour, en animation pour aider, pour développer tous ces sens?
Ouais. Possible.
Possible.
Mais moi, ça me fait penser à ça, parce que j'en ai déjà parlé, justement. C'est le mot déjà dyslexique, ça commence par 10. Ouais. Moi, je m'amuse à dire, parce que bon, vous avez remarqué, je m'amuse avec les mots, mais j'aime bien bislexique. C'est un peu comme on est bilingue. On a le langage qui va bien et le langage qui... Enfin, qui va... Il y a les deux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus deux que un qui va pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Moi, oui, je comprends.
Bon, ouais.
Pardon, mais je comprends.
Non, d'accord, mais non, mais pardon, si tu me comprends, ça fait plaisir.
Ah, il paraît qu'entre dyslexiques, on se comprend, mais les autres ne comprennent pas. J'espère qu'on arrive à la fin de cette émission et j'espère que les gens auront compris tout ce qu'on a dit, parce que là, on est vraiment entre dyslexiques. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Rabia et Bertrand, est-ce que vous pouvez avoir soit un mot de conclusion ou à la rigueur, reprendre la phrase du début, le titre dyslexique. Et alors, tu avais rajouté une chance, c'est ça c'est...
Non, et plein d'outils.
Quoi?
Les outils.
Les outils. Est-ce que tu aurais un mot que tu rajouterais?
Un mot que... faut pas avoir peur, il faut foncer. Parce qu'au final, on y arrive.
Bertrand?
Oui, moi je t'avais parlé de la phrase de Vincent Van Gogh qu'il a écrit à son frère. La normalité est une route pavée, on y avance aisément, mais les fleurs n'y poussent pas.
Très joli. On arrive donc la semaine prochaine, rendez-vous à 9h30 pour la deuxième partie de Dyslexique alors. Nos invités seront donc Agathe Martineau, institutrice et dyslexique, ainsi que Sophie Mottez, maman de 3 enfants dyslexiques. Toutes les deux nous expliqueront comment elles se sont adaptées pour accompagner les 10 et de quels outils on dispose aujourd'hui. Merci Rabia, merci Bertrand,
merci
aux bénévoles, Thibaut derrière la console, Lucie et Fanny qui nous ont assistés, nous ont accueillis. Pour ma part, je remercie Radiola de la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette émission, première émission, pas évidente pour moi. Je dis ouf, un premier ouf. Vous pouvez écouter cette émission et la partager sur le site de Radiola. On se quitte avec une reprise d'une chanson de Richard Gottener, que sûrement le mambo du décalco, dont les paroles ont été modifiées par une association de 10, pour parler de la dyslexie, devenant ainsi le mambo du cerveau. Je vous conseille de bien écouter les paroles, qui parlent très bien de la dyslexie, et je crois que Rabia et Bertrand vont l'accompagner en chantant, parce que ça leur parle. Oui. Merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine.
Écrire, c'est chaud, tout se mélange dans le cerveau. On s'en mêle les pinceaux. On avait tout appris, on avait tout compris. Mais voilà, comme si on était étourdis. C'est faux! Il est curieux, mon cerveau. Il est super, mon niveau. Juste besoin. Comme dissipé, ça devient un réflexe. On nous pointe de l'index, mais ça interpelle. Quoi t'aimes pas les becherelles? Et tu confonds encore les voyelles. T'as oublié les tables, à croire que t'es incapable. Gros sanglots, malgré le nom, le par cœur, les zéros, c'est le mauvais combo. C'est juste un trou d'apprentissage. Neurologique, faut changer les pratiques.
On est perdu.
À l'aide de couleurs, de formes ou de mots clés, tout penser en 3D, me faire redessiner. Outils mémotechniques, vive la créativité, toute ma scolarité. On voudra me faire inventer.
Waterloo. Sois patient, confiant, mon fonctionnement, cerveau. Maintenant, pense en réseau, les enfants, les ados, les parents au bureau. Hello les enseignants, ensemble on est conscients. C'est un cadeau à partager, des compétences pleines de sens. Le monde entier peut profiter, les 10 célèbres ont fait la différence.
Bravo!
Ouh là là!
Excellent!